Don't let me fly away. Don't let me leave here. Don't let me cry to death. Take me in your arms.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans une deuxième émission de La Paix Radio. Après la première émission qui a été un très grand succès.
Énorme succès, effectivement.
Et notre vidéo de présentation avec le Papa Noël. Nous vous présenterons le sommaire de la deuxième émission.
Donc tout d'abord, nous aurons Lorenzo, Gaber et Selim qui vont interviewer le journaliste du plus grand quotidien sportif de France sur le rugby et le football.
Premièrement, c'est le football américain. Deuxièmement, le journaliste s'appelle Monsieur Aurélien Buisset. Et enfin, c'est le quotidien s'intitule L'équipe. Un petit peu de respect, s'il vous plaît, pour le quotidien.
Alzheimer, tous de plus en plus de jeunes, hein, j'y peux rien.
Ensuite, nous aurons une expression grand-mère présentée par Madame Margot Lemaître qui est passée à la casserole.
Après, nous aurons Chérine et Youssef, un élève de première, comme quoi des élèves de tout le lycée viennent participer à l'émission, qui vont vous lire leur poème, dont un qui s'appelle Calamar.
Et pour terminer, nous aurons l'interview de Monsieur Youssef Chazli et il va nous faire un bilan du panorama européen du film qui s'est déroulé au Caire et une présentation de son nouveau centre culturel à Odéon. Et je laisse Madame Chérine conclure. À vous, Chérine.
Donc oui, moi je conclue vu que moi je ne suis pas passée à la casserole. Donc soyez nombreux à écouter La Paix Radio et partagez, faites-le découvrir à vos amis s'ils ne le connaissent pas. Bonne fin de semaine, bye.
Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va vous présenter le débat que nous allons faire. La question posée est: quel sport entre le rugby et le football américain est le plus viril? Nous avons avec nous aujourd'hui l'entraîneur de FC Toulon,
RC
Toulon, pardon, monsieur Biondi Lorenzo, et l'entraîneur des LA Stallions, monsieur Selim Saïd Ali. Alors, est-ce que vous savez qui est-ce qui a inventé le football américain?
Les Chinois.
Faux. C'est pas les Chinois. C'est les Américains. Ok, bon, non, ça marche pas. Bon, alors je passe la parole à mon camarade, monsieur Biondi Lorenzo.
Bonjour. Donc, c'est moi, Lorenzo Biondi. Je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est le rugby. Le rugby, c'est un sport collectif qui se joue à 15, parce que là, on étudie le rugby à 15. C'est un jeu où la principale règle est qu'on ne peut pas passer la balle à l'avant. La balle est ovale, contrairement au football normal. Et c'est un sport de contact où il faut aplatir la balle dans l'embut adverse. Donc le sport a été créé en 1845 par les Anglais.
Merci monsieur Lorenzo. Merci. Maintenant la parole est à monsieur Selim Saïd Ali.
Bonjour, merci Karim. C'est bien Selim. Donc je suis ici pour vous présenter le football américain. C'est un sport collectif inspiré du rugby et créé en 1861 aux États-Unis. Les règles du football américain sont assez proches de celles du rugby. La balle est a exactement la même forme. Le but du jeu est pareil, de poser la balle dans l'embut adverse. Sauf que contrairement au rugby, dans le football américain, il y a moins de règles concernant le tacle.
Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était la présentation de notre débat. Si vous avez aimé, écoutez la prochaine émission qui va être le débat en lui-même.
m'appelle Aurélien Bouisset, donc je suis journaliste à l'équipe et je m'occupe de rugby là-bas depuis 8 ans maintenant. Donc Selim, oui. Toi tu as présenté le football américain, pour le différencier du rugby, je pense que tu as oublié une chose hyper importante, c'est que tu as oublié de dire que le foot américain, on peut se faire la passe à la main, ouais, vers l'avant, contrairement au rugby où on doit passer le ballon à la main, à l'arrière. Donc déjà, ça aurait pu, tu vois, t'aurais pu préciser ça. Et ensuite, tu as utilisé le mot tackle, je pense, oui, pour parler des plaquages. Oui. Et en fait, en français, en anglais, le mot c'est tackle. Et en français, c'est le mot plaquage qu'on utilise pour le rugby comme pour le foot américain. Pour arrêter l'adversaire, c'est à base de plaquage. Mm. Sinon, tu aurais pu dire, Lorenzo, pour le rugby, on peut faire des passes au pied vers l'avant. On peut utiliser le pied comme la main.
Au football américain aussi, je crois, non ?
Et au foot américain, ouais, mais c'est très rare c'est qu'il y ait différent. Des passes au pied. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des passes au pied. Ce que tu aurais pu dire, c'est combien de joueurs il y a sur le terrain dans une équipe de foot US. Par exemple, Lorenzo a dit qu'il y avait 15 joueurs au rugby. Est-ce que tu sais, au foot US, combien il y a de joueurs dans une escouade ?
9 à première ligne.
Ouais.
Et derrière, il y a deux gardes. Il y a celui qui intercepte la balle. Et
ça fait 11, 12.
Oui, ça fait à peu près 15. Parce qu'il y en a un de chaque côté. Mm-hmm. Et, pour les ailes, pour courir. D'accord. Et encore un à l'arrière.
Mais pour la prochaine fois, aussi. Note bien ça. Si c'est vraiment le... Moi, je connais pas assez le foot US. Mais... D'accord. Peut-être aussi, Lorenzo, tu aurais pu dire pour le rugby, comment on compte les points.
Oui, avec les essais.
Ouais, un essai, tu sais combien ça vaut ?
5. Puis transformation, 2 points.
Ouais, et la pénalité ?
3 points.
3 points. Donc ça avance par 5, 3 ou 2.
2.
Et au foot US, un touchdown, ça vaut combien de points ?
7 points. Et après, il y a le tir. Ça... Non, 6 points, pardon. Après, il y a le tir qui compte 1 point.
D'accord.
Ou sinon, on peut faire comment tirer et faire une passe et faire un espèce de deuxième touchdown.
D'accord.
Qui compterait 2 points au lieu de 1.
Ok.
Qui serait plus que.
Donc, 6 points le touchdown. Un point la transformation. Et tu peux aussi faire des pénalités, juste parfois un tir au but de temps en temps. Et ça vaut combien de points ?
Bah ça vaut 3.
3 ?
Oui.
D'accord.
T'as oublié de parler aussi de l'équipement.
Ah oui, il y a quelques protections.
Et
les épaules et la cage thoracique.
Il y a aussi un énorme casque.
Ouais.
Oui, un casque pour protéger.
Alors que
pas qu'on se fasse trop mal en tombant.
Alors qu'au rugby, il n'y a que le protège-dents. Des
épaulettes. Ouais, tu peux, tu as le protège-dents, tu peux
les
mettre de temps en temps une protection, une petite protection pour le torse.
Un t-shirt quoi.
Ouais, rembourré. Un truc un peu rembourré, mais sinon il n'y a rien de particulier.
Et un casque, des fois, un petit casque.
Un petit casque comme le gardien de foot de Chelsea.
Ouais.
Ouais. Mais ça, c'est quelques joueurs qui portent ça, c'est pas obligatoire. Au foot US, c'est obligatoire.
Ouais. Mmh.
Sinon, je voulais vous demander, parce que M. Agrini nous a dit que peut-être que vous aviez couvert le match Nouvelle-Zélande-Irlande.
Ah ouais, non, j'y étais pas. Mais j'étais à Afrique du Sud, France, la veille. Mais Nouvelle-Zélande-Irlande, je l'ai regardé à la télé, donc je sais ce qui s'est passé.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, en fait, de l'équipe de France actuelle ?
Au rugby, elle est pas dans une très bonne période.
Bien sûr.
Parce qu'elle a fait une très mauvaise année avec, je crois, 10 défaites en 13 matchs ou 9 défaites en 13 matchs.
Pourtant, les clubs, ils sont au sommet. Hein.
Alors, en fait, les clubs sont très puissants parce que c'est sans doute maintenant le meilleur championnat de rugby au monde.
Ouais.
Parce que les clubs ont de gros moyens financiers. Et ils attirent des joueurs étrangers de
Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud, Australie, les Samoa, les Fidji, les Tonga. Ce qui fait que ça laisse moins de place pour les joueurs français dans les clubs français. Et donc l'équipe de France, quand elle sélectionne des joueurs français, ils sont moins expérimentés que...
Dans Toulon, il n'y a pas beaucoup de Français, je crois.
Toulon doit y avoir 4-5 Français.
C'est pas beaucoup.
Sur 15, c'est pas énorme. Et souvent, c'est le reproche qu'on fait au championnat de foot anglais en ce moment, qui est peut-être le meilleur championnat du monde de football. Ou pas loin, et où il y a beaucoup de joueurs étrangers, pas assez de joueurs anglais, ce qui fait que l'équipe d'Angleterre de foot est pas au niveau par rapport à ces clubs.
Oui, parce que c'est surtout des étrangers.
Non,
toi, tu suis le rugby ou pas ?
temps en temps.
Pas vraiment.
Quelques matchs.
Est-ce que tu connais bien les règles? Est-ce que tu arrives à comprendre ou...
Oui, ça va, mais pas toutes les règles, quoi. Les règles les plus importantes.
D'accord. C'est toujours hyper compliqué, le hors-jeu, le rugby, c'est difficile à voir.
Il n'y a pas tout ça au football américain.
Il y a des hors-jeux.
C'est différent, oui, il y a des hors-jeux.
Quand par exemple, il y en a un qui tombe et il y en a deux qui tombent et les deux tiennent la balle. Et donc, c'est deux équipes adverses. Donc, on ne peut pas savoir quelle équipe a pris la balle. Alors, il y a plusieurs joueurs de chaque équipe qui arrivent et qui essayent de prendre la balle aussi. Au bout d'un moment, ça fait si personne n'arrive à attraper la balle, ça fait comme une espèce de, je sais pas comment dire, montagne un peu. Donc l'arbitre, il arrête. Quoi.
Et il intervient. De rock.
Oui.
Mais au rugby aussi.
Ouais, les différences entre les deux sports, ce qu'on n'a pas dit, c'est la durée des matchs. Donc en rugby, c'est demi-temps de 40 minutes. Comment ça marche en foot US?
Bah, en foot US, c'est assez différent. Parce que c'est comme au basket aux États-Unis. C'est 4 quarts d'heure. Et à chaque quart d'heure, la balle change de camp.
D'accord, c'est 4 périodes de 15 minutes.
Oui, enfin, les 4 périodes, c'est surtout pour aider à compter le score. Mais en fait, la balle, elle change d'équipe au mi-temps, au bout d'une demi-heure, comme au football.
D'accord,
normal.
Ok.
Ouais, c'est ce que j'allais demander. Je voudrais savoir exactement ce que vous avez fait avant d'être engagé pour être engagé justement.
D'accord. J'ai fait une école de journalisme. Donc après le bac, j'ai fait des études littéraires. Et après 3-4 ans d'études littéraires, j'ai passé des concours pour aller dans une école de journalisme. Donc en fait, en France, la plupart des écoles de journalisme sont ouvertes à partir de bac plus 2, bac plus 3. C'est des écoles qui durent 2 ans la plupart du temps. À la fin, on a un diplôme de journaliste et on peut passer différents concours pour bosser dans différents médias. Par exemple, on peut, si on a fait une spécialisation télé, on peut faire passer un concours pour travailler à France Télévisions. Si on a bossé la radio, il y a différents concours pour bosser à Radio France. Et donc l'équipe fait un concours pour recruter des jeunes journalistes. Et c'est ce que j'ai passé en sortant d'école de journalisme, quand j'avais 25 ans. Et juste en sortant de l'école, j'ai eu ce concours et j'ai commencé à travailler à l'équipe petit à petit. En fait, ce qu'on appelle des piges. Donc quand vous êtes jeune journaliste, ils font appel à vous une fois par semaine, deux fois par semaine. Et au fur et à mesure du temps, ils prennent l'habitude de bosser avec vous, vous apprenez le métier. Et donc ils finissent par vous embaucher si ça se passe bien.
Et c'est quoi exactement votre travail?
Je suis l'actualité du rugby, ce qui fait que quand c'est le championnat de France, en semaine, je vais par exemple à des conférences de presse ou faire des interviews de joueurs au club. Bon, moi, je travaille beaucoup avec le club de Clermont-Ferrand ou aussi de Toulon. Donc je pars une ou deux journées à Clermont-Ferrand ou à Toulon, je rencontre des joueurs, je fais des interviews, les entraîneurs, etc. J'écris mes articles et le jour du match, je vais au stade, j'assiste au match et après le match, je vais faire des interviews et j'écris un article sur le match. Et puis, quand c'est les matchs internationaux de l'équipe de France, en général, j'y suis aussi. Et puis, c'est le même principe, en fait. Ils organisent des conférences de presse et avec des joueurs disponibles et on essaye d'en faire le plus d'articles possible.
Et vous pensez que c'est vers quel âge qu'on peut franchement aller dans un centre de formation et avoir une chance de devenir professionnel?
Au rugby?
Oui. Au football, c'est plutôt jeune.
Ouais, au rugby, on peut y aller un peu plus tard, mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de gamins de 15-16 ans ouais, déjà qui sont dans des centres de formation du rugby pro. Toi, tu joues depuis longtemps?
Depuis 3-4 ans.
D'accord. Et ça te plaît?
Oui,
ça...
Énormément.
Je sais pas, tu joues avec beaucoup d'anglais, c'est ça ici ou...
Bah, en fait, dans notre club, il y a la plupart c'est des Français qui viennent de cette école. Et en fait, les Anglais, quand j'ai commencé, bah, ils étaient très nombreux et petit à petit, ils sont partis parce qu'ils étaient moins forts. Quoi.
D'accord. Et vous êtes combien de l'école alors à jouer au rugby?
Non, on est peut-être une vingtaine.
Vous avez de quoi faire une équipe.
Oui, oui, on est vingtaine en tout, mais il y a une quinzaine qui est de l'école française.
D'accord. Et c'est vous entraînez quoi, une fois par semaine?
Oui,
ou...
tous les jeudis soirs.
Tous les jeudis soirs
en 2 heures.
Il y a de quoi faire des matchs ou
Comment ça?
Bah, est-ce que vous avez des adversaires de temps en temps ou...
On en a pas fait jusqu'à maintenant, sauf que dans pas longtemps, on va faire un match contre une autre équipe du Caire.
D'accord.
Et on va peut-être aller justement en France, vers Perpignan, pour rencontrer une équipe soit de Perpignan, soit d'un petit club à côté.
Ah bah c'est bien. Donc ouais, le rugby à 15 n'est pas du tout populaire. Il y a des équipes ou rien du tout, vraiment zéro?
Peut-être qu'il y en a, mais c'est pas du tout connu.
D'accord, même les gens connaissent pas trop en fait.
C'est plus le football américain, je crois.
Selim, le football américain ici, c'est regardé à la télé, c'est pratiqué, c'est...
Pas beaucoup non plus, mais il y a quand même quelques clubs qui organisent des matchs et qui font des entraînements.
Toi, tu pratiques un peu? T'as
en fait,
l'occasion
Plus maintenant, mais j'ai fait pendant un moment. Mais il n'y avait pas assez d'élèves dans ce club-là, donc ils ont fermé.
D'accord.
Enfin, ils n'ont pas fermé, mais ils ont arrêté l'entraînement. C'est un club où il y a plusieurs sports, donc c'est pas un problème pour eux d'arrêter cet entraînement-là.
Et tu suis à la télé la NFL ou c'est,
oui,
c'est compliqué?
De temps en temps, mais parce que j'aime bien le basket aussi. J'ai des entraînements de basket.
D'accord.
Tous les trois fois par semaine.
Ah oui.
Donc je suis pas tellement dans le football américain. Je suis aussi le basket.
Okay.
Mais oui, je sais qui gagne, qui est premier de la ligue, etc.
Ok. Le Super Bowl, tu le regardes en général? Ça ou c'est trop tard?
D'habitude c'est trop tard, mais parfois je regarde quand même.
Toi Lorenzo, tu regardes un petit peu
le football américain?
Oui.
Ah non, pas du tout.
Ça t'intéresse
pas? J'aime pas du tout.
Non, t'aimes pas?
Je trouve qu'on comprend rien ce qui se passe. Il y a plein de gens qui courent partout, tout le monde se tape et on comprend pas.
D'accord. Tu connais les règles un petit peu?
Vaguement. Je sais qu'il faut lancer la balle, qu'il faut courir, qu'il faut empêcher qu'on prenne la balle. C'est tout ce que je sais.
D'accord. Bah, moi je connais aussi assez peu le foot américain, mais bon, comme c'est relativement populaire, très populaire aux États-Unis, il faut toujours garder un œil pour voir ce qui se passe. Et il y a quelques joueurs de rugby à 15 qui ont tenté une carrière en foot américain, et en particulier en fait des buteurs. Parce que comme ce que tu peux expliquer peut-être, Selim, est-ce que tu connais le rôle particulier du buteur au foot américain?
Oui, le buteur c'est important, mais il joue pas beaucoup en fait. Il rentre que au moment pour tirer la balle en fait.
D'accord, donc il participe jamais aux actions offensives et son seul rôle c'est de rentrer sur le terrain pour taper les coups de pied entre les perches.
Exactement.
Au rugby, oui, il est tout le temps sur le terrain. Et donc, il y a de très bons buteurs de rugby à 15 qui sont partis aux États-Unis pour tenter ce pari d'être buteur en NFL. Donc, il y a l'actuel entraîneur du Stade français, qui est un club de Paris, qui est un Argentin, qui est un excellent buteur. Il est parti tenter sa chance là-bas, mais bon, il n'a pas été embauché, mais il a fait des camps d'été. Pour tenter sa chance là-bas.
Il n'a pas réussi
Non, il a pas été gardé. Puis, et il voulait, je pense qu'il voulait surtout continuer à jouer à 15.
Monétairement, est-ce que c'est le rugby ou le football américain?
Mais voilà, en gros, c'est au niveau des salaires.
Alors, je pense que c'est incomparable. Au foot US, tu es beaucoup mieux payé qu'au rugby. Alors, est-ce que tu connais des salaires en foot US? Est-ce que tu as une idée?
Pas exactement, mais je sais que quand ils gagnent le match, ils gagnent vraiment quand même une très bonne somme d'argent. Quoi.
Je pense que des
au football, je crois. Ou comme au basket.
Je pense que c'est beaucoup plus que le football normal. Faudra faire une recherche, mais en fait, c'est des salaires dont on n'a pas trop l'habitude, parce que c'est parmi les sportifs les mieux payés des États-Unis. Des mecs comme Bradley Manning et tout ça.
Comme les basketteurs, c'est énorme.
Mais en fait, le foot US, c'est plus populaire que le basket aux États-Unis. Donc tu vois, l'audience télé du Super Bowl, c'est sans doute la plus grande audience sportive, tout sport confondu. T'as plus de 100 millions de téléspectateurs, je pense, qui regardent chaque année le Super Bowl.
Y a que les Américains qui jouent à ça.
Et ouais, mais c'est un marché intérieur et c'est très très populaire chez eux, beaucoup plus que le basket, que le hockey, que le baseball.
Ils ont vraiment leur sport à eux.
Ouais, c'est très particulier. Et pour revenir au rugby, les joueurs les mieux payés dans les clubs, c'est donc dans le championnat de France, en top 14. C'est les grandes stars étrangères comme Johnny Wilkinson à Toulon. Je sais pas si tu connais, Selim, est-ce que tu connais le nom de Johnny Wilkinson? Est-ce que tu connais son nom?
Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Mais...
C'est un Anglais
Je crois que oui, parce que j'avais un ami, j'étais resté chez lui 2 semaines en France, et son père... Il aimait beaucoup RC Toulon.
D'accord.
Il aimait beaucoup le rugby aussi. Donc, il en parlait à peu près.
Et donc, lui, ça va être le joueur le mieux payé du championnat de France et il doit gagner par an 500-600 000 euros. Donc si tu compares un footballeur ou un joueur de football américain, c'est pas grand chose. Et c'est pareil si tu fais le budget d'un grand club de foot.
Oui, c'est 2-3 millions pour un club de rugby.
Un peu plus. Disons que les grands clubs de rugby français actuels, leur budget c'est dans les 25 millions d'euros. 25-30 millions d'euros. C'est déjà beaucoup, mais comparé à un club de foot, à des grands clubs de foot européens comme le Real, le Barça, c'est plus de 100 millions. Donc c'est plus de 200 millions même, je pense. Donc c'est une économie...
Non, on parle pas de salaire. On parle de
là, je parle du budget, le budget des clubs, le budget total. Au niveau du salaire, vous connaissez un salaire de footballeur ou qui, par exemple?
Les grandes stars, c'est au-dessus de 10 millions.
D'accord.
Sinon, c'est les 6 millions.
Donc ben voilà, les grandes stars du rugby, c'est 500-600 000 euros. Donc il y a quand même une grosse différence de salaire entre les...
Mais c'est beaucoup plus médiatisé aussi. Hein.
Oui, bah oui, c'est incomparable. En fait,
en Afrique, il n'y a pas de rugby.
Ouais. Non, il y en a un peu au Maroc, en Afrique du Sud, bien sûr.
Ouais.
Un peu en Namibie.
Non, Zimbabwe, non?
C'est possible, en fait, dans les anciennes colonies anglaises, tout ce qui est proche de l'Afrique du Sud, doit y avoir un petit peu de rugby. Mais disons, les principales nations africaines, c'est Afrique du Sud, Namibie, Maroc, t'as la Côte d'Ivoire qui a participé à une Coupe du Monde. Par l'immigration en France aussi, il y a un petit peu de rugby au Sénégal. Un petit peu au Cameroun, il y a un ou deux joueurs de bon niveau en France qui sont camerounais en première division. Voilà, mais c'est vraiment...
Mais souvent, ils jouent dans l'équipe de France.
Alors, par exemple, le capitaine de l'équipe de France, Thierry Dussautoir, je pense qu'il est né en Côte d'Ivoire. Il y a aussi un joueur qui s'appelle Yannick Nyanga, qui est d'origine africaine. Donc oui, en équipe de France, il y en a plusieurs. Il y a 15 ans, il y avait un joueur, mais parmi les meilleurs de l'histoire de l'équipe de France, qui s'appelait Abdelatif Benazi.
Je
ne
connais pas.
C'est un joueur qui jouait dans les années 90. Ah. Et qui était né au Maroc, qui avait fait ses premières sélections avec l'équipe du Maroc, et qui était parti poursuivre sa carrière avec l'équipe de France.
Ils peuvent changer
À l'époque, on pouvait changer. Maintenant, c'est plus possible. Mais à l'époque, on pouvait changer d'équipe nationale. Est-ce que, par exemple, vous savez quand est-ce que c'est la prochaine Coupe du Monde de rugby?
C'est l'année prochaine, dans 2 ans.
Ouais, c'est en 2015, en Angleterre.
En même temps que la Coupe d'Europe de football.
C'est en septembre.
Ils ont 2 ans d'écart.
Tu veux dire quoi, le championnat d'Europe de foot?
Oui, le championnat d'Europe de foot.
Non, regarde, c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est les années impaires. Donc, tu vois, les euros de foot, c'est les années paires, et les Coupes du Monde aussi. T'avais l'Euro 2012 en Ukraine, oui. L'Euro 2016 en France.
Merci, messieurs, et spécialement notre invité Aurélien. Et merci de nous avoir écoutés.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle édition, c'est la deuxième je pense, avec ici Margot Lemaître. Elle va nous présenter une expression de grand-mère qui parle de casserole et de... Bon, vous allez savoir.
Alors l'expression est « elle est passée à la casserole », ce qui signifie « elle a eu des relations charnelles alors qu'elle n'y était pas disposée ». Ce sont en premier lieu les volailles qu'on passe à la casserole, qu'on tue et qu'on cuit immédiatement, prêt. Un acte, un tantinet violent, qui vaut à l'expression « passer à la casserole » d'avoir aussi le sens de subir un mauvais traitement ou être tué. Mais mis à part ces cas extrêmes, la femme est bel et bien comparée à un aliment prêt à consommer. ce sont toujours les femmes qui passent à la casserole. Jamais les hommes, pas l'envie, pas la tête, à ça, fatiguées. Elles ne manquent pas d'excuses quand elles cherchent à échapper au fameux devoir conjugal. Bref, dans ce cas-là, il s'agit d'une obligation, pas d'une récréation. Au passage, on notera que dès qu'il s'agit d'être porté sur la chose, les hommes sont traités avec retenue. Le coq du village, un chaud lapin, voire admiration, un homme à femme, un don Juan, un Casanova, tandis que les femmes ont souvent mauvaise réputation. Une dévergondée, une Marie-couche-toi-là, avoir la cuisse légère. Que voulez-vous ? L'être humain est souvent beaucoup plus trivial et moins poétique que Musset et son « aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse, pourvu qu'on ait l'ivresse ».
Donc, bon, c'est une belle expression et j'espère à utiliser avec modération ou sans modération, ça dépend de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle séquence, on peut dire ça comme ça. On va parler maintenant de poésie avec Madame Chérine. Chérine, j'ai oublié son nom, mais bon, c'est pas grave. Chérine, elle a écrit deux poèmes et un poème a été écrit par une poétesse d'il y a longtemps. Bon, je vous laisse la parole.
Donc, coucou tout le monde, donc moi c'est Chérine. Et pour votre information, je suis encore mademoiselle, je ne suis pas madame, je ne suis pas mariée, à ce que je sache. Et donc oui, effectivement, comme vient de le dire mon ami Vladi, je vais vous lire deux poèmes que j'ai composés moi-même et un poème de Louise Labbé, une poétesse de la Renaissance. Aimer, verbe si simple, si dur à conjuguer, verbe dur à exprimer, verbe qui nous fait rêver, qui nous ramène vite à la réalité, parfois dur à endurer, parfois trop facile à briser, cruel quand c'est terminé, mais si beau lorsque c'est commencé. Ne devrait exister que pour ceux qui savent bien l'employer. Aimer, c'est savoir pardonner. Aimer, c'est ne rien oublier de tous ces instants passés, d'intenses et longs baisers. Dis-moi ce je t'aime, à peine murmuré, mais n'oublie pas qu'amour ne vaudra jamais amitié. Toi qui hantes mes nuits, toi qui arraches mes cris, toi qui as tout simplement bouleversé ma vie. Dans ma tête ne résonne que ton prénom, dans mon cœur ne sonne que ton petit surnom. Mon héros, mon idole, mon prince charmant. Pauvre fille que je suis, moi qui t'attends. Depuis toujours ta présence me fait survivre, et pourtant ton amour me ferait enfin vivre. À quoi bon toujours espérer, croire et t'aimer, si cet amour ne sera jamais partagé? Mon amour est un crime pour toi, je le sais. Égoïste, alors tu me forces à t'oublier. L'ennui, c'est que je n'y arriverai jamais. Mais comment continuer à t'aimer toujours quand cet amour ne fait qu'un aller sans retour? Donc voilà, ça c'était mes deux poèmes. Et maintenant je vais vous parler un peu de Louise Labbé. Je vais faire une courte introduction. Donc Louise Labbé, c'était une poétesse de la Renaissance qui a vécu entre 1524 et 1566. Elle est née à Lyon. C'est une femme qui a reçu une éducation très moderne. Donc à la Renaissance, ils étaient beaucoup basés sur les langues, les musiques, la poésie, l'art, toutes ces choses-là en fait. Et elle participait beaucoup à sa vie culturelle de sa ville, qui était à l'époque très influencée par l'Italie. Elle était aussi très prise pour le poète Olivier de Magny. Donc elle était également très éprise du poète Olivier de Magny, qu'il laisse penser que c'était un amour non partagé. Et on peut très bien imaginer que ce poème que je vais vous lire maintenant lui est dédié. Ô beaux yeux bruns, ô regard détourné,
Au chaud soupir, aux larmes espendues, aux noires nuits vainement attendues, au jour luisant vainement retourné, au triste plein, au désir obstiné. Au temps perdu, aux peines despendues, aux mille morts, en mille regrets tendus, aux pires mots contre moi destinés, au rire au front, cheveux, bras, mains et doigts, aux lui plaintifs, viols, archers de et voix. Tant de flambeaux pour ardre une femelle, de toi me plains que tant de feux portant. En tant d'endroits d'issue mon cœur t'attend, n'en ai sur toi volé quelques étincelles. Louise Lapé.
Ah, ça m'a donné une larme aux yeux, je vous promets, c'est très émouvant.
Ben, je suis très heureuse d'apprendre ça et j'espère que mes poèmes et également celui de Louise Abbé en toucheront plus d'un.
Merci beaucoup, Madame Chérine.
De rien, au revoir.
Bonjour, bienvenue Emmanuel de la Paix Radio avec vous. Et aujourd'hui, on a Youssef qui va nous présenter un poème.
Le calamar. Le calamar est un animal très spécial. Il déteste le bruit. Il passe entre les poissons, et dès que l'un d'eux fait des bulles, il sort ses tentacules et lui dit « Le calamar aime l'ordre et la discipline. Il range les coquillages autour des rochers, deux par deux ou quatre par quatre. Les rochers multicolores ont deux coquillages. Si un poisson déplace un coquillage, il lui dira, autant de fois qu'il le faudra, de le remettre à sa place. S'il n'aime pas le bruit, il aime en faire. Il calomnie les malheureux poissons, désormais voués à la pendaison. Ce léviathan, vomi par les enfers, la culture en aucun cas ne sert, ne laissant les poissons se satisfaire de cette gigantesque mer qu'ils auraient pu explorer, il l'a transformée en une flaque glacée.
Bonjour mesdames et messieurs, ou plutôt chers élèves ou chers camarades. Nous sommes ici dans une nouvelle édition de l'AP Radio avec un deuxième invité très spécial qui est Youssef, fils de notre ancienne invitée spéciale, Marianne Elkhoui. Bonjour Youssef.
Bonjour.
Bienvenue dans notre édition spéciale, on peut dire ça comme ça. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous s'il vous plaît?
Je m'appelle Youssef Chazli. Je suis un ancien élève du LFC en fait. J'ai eu mon bac en 2008 et j'ai fait mes études à Montréal et je suis rentré au Caire il y a 2 ans et depuis je travaille dans le cinéma. Je travaille dans une compagnie qui s'appelle Mistre International Film et là je m'occupe d'organiser le panorama du film européen qui a lieu tous les ans au Caire.
Ok, et pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre scolarité? Comment est-ce que c'était? Ça s'est bien passé? Avez-vous des bons souvenirs de cette école?
Alors, je pense que mes années au lycée étaient de très belles années. Peut-être les meilleures années de notre vie, quoi, moi et mes amis. Et on a de tellement bons souvenirs qu'on a passé ici. Et moi, d'ailleurs, c'est la première fois que je viens depuis le bac, je pense. Ou peut-être la deuxième, je me souviens pas trop. Mais ça fait très longtemps que je suis pas revenu. Et là, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui me sont passés par la tête. Là, et c'était vraiment... là, je me rappelle aujourd'hui que c'était de très, très belles années passées au lycée.
On est content d'apprendre ça en tant qu'élève. Il y a eu un nouvel espace culturel dans... à ce qui paraît, à côté d'Odéon. Pouvez-vous nous en dire plus et en quoi ça consiste, s'il vous plaît?
Okay, l'idée, c'est que c'est un projet qui s'appelle Zawiya, qu'on a commencé. Et l'idée de Zawiya, c'était de s'approprier une salle de cinéma qui existe déjà, qui est le cinéma Odeon au centre-ville, et de faire un projet de salle d'art et d'essai. En fait, l'idée, c'est d'utiliser cette salle pour projeter des films un peu indépendants ou alternatifs, des films qui ne sont pas projetés en général dans les cinémas égyptiens, dans le circuit commercial. Et donc nous, en fait, on est intéressé par l'idée de projeter des films qui n'existent pas au Caire, et qui, alors qu'il y a un public qui existe et qui veut regarder ce genre de film.
Ok, et pouvez-vous nous en dire plus sur l'accessibilité de cette salle, comme on l'avait dit, quel genre de public ils vont aller, et surtout en quelle langue ça sera, et pour quel public, riche, pauvre?
Odeon se situe au centre-ville, donc l'idée, c'était d'être central, en fait, et de pouvoir être accessible à un maximum nombre de personnes. Et on va offrir des prix qui sont relativement plus bas que les prix les prix des cinémas commerciaux en Égypte. Et donc l'idée, ce serait d'être plus accessible que les cinémas actuels, d'arriver à trouver un public plus large que le public général qui va au ciné de nos jours. Et c'est pour ça qu'on a fait des prix des prix plus bas que d'habitude. En général, donc je peux pas dire que nous, on veut pas cibler un public spécifique. On veut cibler un maximum un nombre de personnes. Et je pense que le centre-ville est un endroit stratégique pour un projet de ce type.
Oui, effectivement, vous avez raison. Le centre-ville, c'est un lieu stratégique. Et bon, changeons un petit peu de sujet. Pouvez-vous nous faire un petit bilan du panorama européen des films au Caire? Comment est-ce que ça s'est déroulé et quelles sont les premières impressions?
Donc le panorama du film européen s'est terminé il y a 2 jours, ou il y a 3 jours. Nous, on est très contents de cette édition. C'était la 6e édition. On a essayé un peu d'agrandir le festival cette année, dans le sens où avant on était un petit festival d'une semaine qui avait lieu dans une seule salle et qui présentait une vingtaine de films. Et là, après 6 éditions, on est arrivé à 3 salles, 10 jours et une cinquantaine de films. C'est déjà beaucoup plus important. En termes de public, on est très content attendance. J'ai perdu mon français. Hein. Là, voilà, la fréquentation. Notamment à Galaxy, au Manial, qui est un quartier assez central aussi, et qui a connu un grand nombre de personnes, quoi. Nous sommes contents. On est il y a peu de rendez-vous de cinéma qui existent au Caire ces jours-ci, et donc le fait d'avoir existé, d'avoir été présent cette année, c'était un grand avantage pour nous. Alors moi, en fait, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous avez en pensé du film que vous avez vu au ciné, parce que on organise quand même un programme qui s'appelle Éducation à l'image, et c'est un programme qu'on fait avec pas mal d'écoles au Caire, et notamment le lycée français, et on les invite à aller regarder des films, et on rédige parfois des dossiers pédagogiques pour que les élèves puissent en discuter davantage en cours. Et donc j'aimerais savoir quel film tu as vu et qu'est-ce que t'en as pensé.
En fait, en arabe, on est allé au cinéma Galaxy sur Corniche. On a regardé le nouveau film tunisien. J'ai oublié exactement ce qu'est son nom. It was better tomorrow. Okay, le film, il était bien, mais surtout, il expliquait la situation en Tunisie avant et après la révolution, pour montrer que ça n'avait pas tellement changé, en fait. que les pauvres, ils étaient toujours pauvres, quoi. Ça changeait presque rien à leur situation sociale. C'était un film intéressant, mais je dois avouer, quand même, personnellement, je trouvais un peu ennuyant, quand même.
Pour que l'expérience soit meilleure et que vous puissiez vraiment bénéficier de ce festival pour votre programme scolaire.
Je trouve pour que ce soit possible, le film soit moins ennuyeux. En fait, il faudrait que, je sais pas, il y ait un peu plus d'action. Puis la façon dont ils avaient filmé le film aussi, la caméra elle bougeait trop, je trouve. C'est pas un film. Non, c'est vrai. La caméra du film lui-même, elle bougeait beaucoup. Donc c'était un peu. Ça mélangeait tout, quoi. Mais je crois que s'il y avait un peu plus d'action, plus de mouvement, etc., je crois que. Ouais, ça devrait faire un bon film, quand même.
Alors j'avais une question. C'est comment ça se fait que tu as fait des études en sciences politiques et tu t'es retrouvé dans le cinéma?
Ben, en fait, c'est moi j'étais intéressé. Enfin, j'ai fait un bac ES. J'étais intéressé par tout ce qui est les sciences sociales, sciences économiques et tout ça. Et donc, quand je suis parti faire mes études, j'ai continué dans cette voie et j'ai fait des études de sciences politiques et de développement international. Et après, quand je suis rentré au Caire, j'ai travaillé un peu dans ce milieu, j'ai travaillé un peu dans le milieu académique, je faisais des recherches, je travaillais dans un centre de recherche, et honnêtement, ça m'ennuie un peu. Donc j'ai, en même temps, toute ma famille travaillait déjà dans le cinéma, et donc ça m'a tenté d'essayer ce domaine. Et je trouvais que c'était plus intéressant parce que c'était beaucoup plus pratique et moins théorique. Et donc j'ai continué dans cette voie.
Et tu comptes continuer dans ce métier du cinéma ou tu comptes changer après ou quelque chose?
Non, alors, très bonne question. On sait pas, je sais pas. On reste à faire des plans tout le temps et d'essayer de se mettre des étapes, de s'imposer des étapes et de dire je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, mais après tout change en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant je m'y plais dans le cinéma et je pense continuer là-dedans.
Ok, donc merci beaucoup pour votre éclaircissement sur toutes nos questions. On vous souhaite la bonne chance et espérons à l'année prochaine.
Merci de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir d'avoir fait cette émission aux côtés de tous nos camarades. Et on se retrouve très bientôt.
Nous avions eu Paolo qui essaie d'imiter l'accent du Sud.
Je le fais très bien.
Bon, dans la nouvelle émission, nous aurons des sujets tels que l'alcool avec des chiffres très très intéressants.
Albert Cosri, Albert Camus.
Avec une baignoire et Emmanuel.
On n'a pas compris.
Comme Emmanuel.
Ça, c'est comme ça, on n'y peut rien.
Mais bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Et rendez-vous sur
le site du lycée français LFC. Non, lfcare.org.